Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour notre émission « Vous avez la parole ». Notre invité aujourd'hui, Martial Dervéyé, qui vient nous parler de sa passion, la généalogie. Bonjour Monsieur Dervéyé.
Oui, bonjour Radio Sud Plus, bonjour Elisabeth.
Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette discipline, la généalogie, qu'est-ce que c'est ?
Donc la généalogie, pour vous expliquer un peu en gros, hein, c'est une science auxiliaire de l'histoire. Hein, ça permet aux passionnés, aux gens qui sont intéressés, de remonter l'histoire, de rechercher des membres de leur famille, les ancêtres, et avoir le maximum de renseignements sur ces ancêtres, leur naissance, leur décès, leur mariage et tout ce qui a pu se passer donc, dans leur vie.
En ce qui vous concerne, qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans ce type de recherche ?
Donc c'est un peu particulier pour moi, ça date de plus de 20 ans. C'est une fois, un jour, une discussion avec ma fille. Donc elle m'a demandé si je connaissais mon papy, ma mamie, donc je lui ai dit oui. Et après elle m'a posé la question, elle m'a demandé si je connaissais le papa de mon papy. Et là donc je ne savais pas du tout qui c'était le papa de mon papy. Et donc là j'ai essayé de me rechercher, donc je suis plongé dans cette branche, dans cette passion qui s'appelle la généalogie, pour essayer de retrouver justement et pour répondre à la question de ma fille.
Est-ce que vous pensez que ça peut apporter quelqu'un au niveau personnel, psychologique, de pouvoir remonter dans le temps comme ça pour retrouver ses racines ?
Oui, je ne suis pas psychologue, mais effectivement, une fois j'ai discuté avec une psychologue qui m'a dit effectivement, dans la vie de chaque individu, on retrouve parfois des pathologies qui peuvent justement remonter à ses ancêtres. Bon, j'ai pas tout à fait totalement compris ce qu'elle me disait par là, mais elle me dit il y a une branche effectivement de la généalogie qui s'appelle la psychogénéalogie. Donc
qui fait fureur en ce moment.
Voilà.
La psychogénéalogie, oui, effectivement. Donc en fait, la recherche de ses ancêtres, c'est-à-dire mieux connaître d'où on vient, peut avoir un impact important sur le vécu et la personnalité d'un individu. Alors est-ce qu'on pourrait dire que c'est une forme de quête spirituelle, la recherche du Graal, comme on dit, puisque le Graal c'est la recherche de la vérité ?
Oui, on peut voir les choses comme ça, effectivement.
Est-ce que pour vous ça l'a été ?
Pas au départ.
Quelque part, oui. Rechercher la vérité sur vos ancêtres. C'est pas chercher à connaître une part de vous-même.
Voilà. Pas au départ. Au départ, comme je vous ai dit, c'était juste pour une réponse à ma fille. Mais effectivement, quand je me suis plongé là-dedans, j'ai découvert des choses. Effectivement, peut-être que vous avez peut-être employé le bon mot que j'avais jamais employé, mais une quête du Graal, effectivement, une quête de la vérité. Donc, savoir d'où on vient, il y a un proverbe qui dit quand on sait d'où on vient, ben on a plus de facilité de savoir qui on est et où on va. Donc.
Oui, très juste. D'autant plus que plus ça va, plus les recherches portent sur tout ce qui est imprimé dans nos gènes et dans notre ADN et qui viendrait justement de nos ancêtres. Donc ça peut être des habitudes, ça peut être des hobbies qui en fait étaient déjà ceux de certains ancêtres.
Oui.
Alors maintenant, on va passer aux choses tout à fait pratiques. Expliquez-nous un peu comment vous procédez lorsque vous travaillez sur l'arbre généalogique de quelqu'un.
D'accord. Le conseil que je peux donner à celui qui est intéressé, c'est au départ donc s'intéresser à son milieu familial. Ne pas hésiter, poser des questions. Hein. Poser des questions à tout le monde, à toute sa famille, ses cousins. De préférence poser des questions aux personnes qui sont âgées, leur demander comment ils ont vécu, ceux qui connaissent de la famille, et puis ça va apporter beaucoup de renseignements donc dans la quête future
du Graal.
La quête du Graal, oui, je vais employer ce mot à partir de maintenant. On a aussi dans nos tiroirs, dans nos vieux tiroirs, des documents, des papiers qu'on a parfois oubliés et qui sont aussi utiles pour rechercher des renseignements, des vieux livrets de famille, des vieilles photos. Donc c'est important.
Mais vous venez de dire quelque chose que moi je trouve très intéressant, c'est que vous avez dit se tourner en particulier vers les personnes âgées qui restent la mémoire vivante. Et c'est ce que notre civilisation oublie de plus en plus, nos civilisations modernes. Puisqu'on met les vieilles personnes, dès qu'on peut s'en débarrasser, on les met dans des maisons de retraite, etc. Et on ne s'adresse plus aux anciens comme on faisait avant. On s'adresse à Internet. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est une erreur, effectivement. écouter les anciens, les interroger. Il y a des choses qui se passent, donc ils se transmettent par écrit, mais il y a beaucoup de choses, et beaucoup plus pointues, beaucoup plus fines, beaucoup plus prenantes, qui se transmettent par la voix orale. Et ça, donc, si on n'écoute pas les anciens, ils ont vu, ils ont connu des choses. Hein. Je pense à la guerre, par exemple. Il n'y a plus personne maintenant qui connaissent la guerre, à part ce qu'ils ont lu dans des livres. Mais si on a la chance d'interroger une personne qui a connu la guerre, elle va peut-être avoir sa vision, comment elle a vécu ce moment de l'histoire. Et c'est très intéressant, très, très enrichissant. Et je conseille en plus, moi, de ne pas garder pour soi ce que cette personne-là nous a appris. Si on peut transmettre à nos enfants ou à nos amis, voilà, c'est très, très intéressant.
Oui, alors... Pratiquement, comment vous faites après ? Après avoir réuni des informations oralement avec les anciens, par rapport aux vieux papiers administratifs, etc. Qu'est-ce que vous faites ensuite ?
Le plus difficile, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est tout ce qui est récent. C'est-à-dire tout ce qui a moins de 100 ans. Tout ce qui a moins de 100 ans, l'état civil, on ne peut pas consulter. Nous, ça fait partie du domaine privé, donc on ne peut pas consulter, le généalogiste ne peut pas consulter l'état civil d'une personne qui a moins de 100 ans. Donc c'est tous ces renseignements-là qu'il faut essayer de trouver dans la famille ou par les connaissances. Ensuite, ça devient un peu plus facile quand on descend en dessous de 1900, parce que l'état civil, hein, toutes les archives d'état civil sont reversées aux archives départementales, et là on trouve tous les actes d'état civil qui concernent toutes les personnes qui ont vécu en France aux archives départementales.
Radio Sud Plus. Radio Sud Plus. La sensation.
Donc pour faire vos recherches par la suite, il faut que vous alliez aux archives départementales.
On a la chance maintenant de pratiquement toutes les archives départementales de France ont été numérisées. Et donc numérisées, ça veut dire qu'elles sont accessibles pour la plupart sur Internet. Donc il faut connaître un petit peu le principe d'utiliser Internet et d'utiliser ces archives.
Oui, il vaut mieux savoir manipuler Internet, voilà, pour aller faire des recherches.
Voilà, mais c'est pas quelque chose qui est surhumain.
C'est pas obligatoire.
Voilà.
C'est pas obligatoire de savoir manipuler Internet.
Oui,
imaginons, aujourd'hui, je veux faire une recherche et je ne sais pas du tout me servir d'Internet. Est-ce que je peux aller voir, par exemple, des gens qui vont m'aider à faire ça? Peut-être à Saint-Denis, c'est ça?
Oui, il y a je fais partie aussi d'une association de généalogie, le Cercle généalogique de Bourbon, donc qui propose effectivement son aide pour ceux qui veulent...
Ah, c'est intéressant ça pour nos auditeurs. Donc il faudra bien qu'ils notent le numéro de téléphone pour vous contacter en tant qu'association, mais... Vous faites ça gratuitement quand vous les aidez?
Oui, le Cercle généalogique, c'est une association, donc les renseignements sont gratuits, mais si on veut être poussé...
Aller plus loin
dans sa
généalogie, une recherche.
Il faut prendre une adhésion qui est de quelques dizaines d'euros, je crois que c'est 30 euros. Pour
une adhésion, quoi. Une adhésion. D'accord. Vous pouvez donner le numéro de téléphone?
Je n'ai pas en tête le numéro de téléphone, mais si vous tapez sur Internet, Cercle généalogique de Bourbon, vous aurez tous les renseignements.
Cercle généalogique.
Cercle généalogique de Bourbon. Ça, c'est pour les gens qui ont des
difficultés avec Internet. Difficultés. Alors, si on n'a pas de difficultés avec Internet, on fait comment? On va sur quel site?
On va sur le site des archives départementales du département dont on fait les recherches. Hein, pour la Réunion, c'est les archives de la Réunion, les archives nationales de l'Outre-mer. Et là, après, on a accès à l'état civil des différentes communes de la Réunion. Si vos ancêtres sont de la Réunion, ben vous allez sur le site qui s'appelle les Archives nationales de l'Outre-mer, hein, de la Réunion, et vous avez donc la possibilité de consulter l'état civil avant 1900, hein, de toutes les communes de l'île. Il y a quelques lacunes parfois, mais c'est assez bien complet.
C'est assez complet?
Les archives de 1900 jusqu'à maintenant, c'est du domaine privé.
Alors justement, pourquoi on va revenir sur cette histoire de 1900? Pourquoi est-ce plus facile d'accéder à des informations sur les archives avant 1900? Et pourquoi à partir de 1900 jusqu'à nos jours, est-ce si difficile? Qu'est-ce qui se passe?
Voilà, parce que les archives, donc dans les archives, il y a votre acte de naissance, votre acte de mariage si vous êtes marié, et votre acte de décès pour les personnes qui sont décédées. Mais ça fait partie du domaine privé. C'est-à-dire on ne peut pas consulter l'acte de naissance d'une personne étrangère. Le seul acte de naissance qu'on peut consulter, c'est celui le nôtre, ou alors celui de nos ayants droit, nos enfants ou nos parents. on ne peut pas consulter les autres actes de naissance. Parce que les personnes qui sont nées après 1900, peut-être qu'ils ne sont pas encore décédés, et peut-être qu'ils ne veulent pas, qu'on consulte leur acte de naissance.
Oui, bien sûr, qu'on aille mettre le nez dans leur acte de naissance et autres. Et en ce qui concerne les gens qui ne sont pas de la Réunion, comment doivent-ils faire ?
Le procédé est le même, hein, c'est le rechercher, interroger la famille, et ensuite aller dans les archives départementales de leur département.
Et là, de leur département.
De leur département, où l'ancêtre est susceptible d'avoir vécu.
Ah, c'est... Oui, oui. En fait, c'est pas simple du tout, parce que imaginons que dans mes ancêtres, il y en a un que je ne connais pas, qui, peut-être comme ça se faisait à l'époque, ont déclaré les filles mères quand elles avaient, que le père était inconnu. Comment ça se passe alors ? Là, il y a un gros blanc.
Effectivement, parfois dans l'arbre généalogique, c'est un arbre, il y a des branches qui sont coupées et on ne pourra pas remonter. C'est le cas des filles, des mamans célibataires qui n'ont pas...
Oui, enfants naturels.
Enfants naturels, nés de père inconnu. Il y a aussi le cas des enfants qui ont été trouvés, abandonnés, trouvés. Donc là, ça va s'arrêter. Donc il y a des branches. C'est un peu frustrant pour le généalogiste ou pour celui qui recherche, mais ça arrive
souvent.
Dans ma branche, moi, c'est assez rare, hein, mais ça arrive.
Oui, à la Réunion, ça doit pas être très fréquent parce que c'est petit et tout le monde se connaît, non?
Au début, mais après, au XVIIIe siècle, il y a des mères qui ont été mères célibataires et puis ouais. Retrouver le papa, voilà, il y a plus, on peut plus interroger personne, donc c'est.
En fait, quelque part, il faut être aussi passionné par l'histoire, en général, histoire avec un grand H.
Mais tout à fait, parce que moi, ce qui m'intéresse, bon, c'est de savoir effectivement qui sont mes ancêtres, mais comment ils ont vécu, à quelle époque ils ont vécu, et éventuellement s'ils ont vécu en même temps que certains personnages célèbres.
Plus célèbres. Voilà. Et comment vous arrivez à savoir comment ils ont vécu, par exemple ? Comment ils ont vécu ?
Il y a aussi, quand on est un peu plus averti, un peu plus avancé dans la généalogie, il y a quelque chose aussi qui est très important, c'est les archives notariales. le notaire, lui, quand il y a quelqu'un qui passe devant lui pour faire un acte, donc il enregistre, et tous les actes des notaires sont aussi transmis aux archives départementales. Et là-dedans, c'est une mine d'or pour le généalogiste. On sait où il habitait, ce qu'il a vendu, ce qui s'est un peu passé dans la famille. Donc on arrive à savoir comment il a vécu. On arrive à savoir si l'ancêtre a eu 3 chevaux, combien de pièces il y avait dans sa maison. Donc c'est voilà.
Et on peut même savoir s'il a été honnête ou pas.
Oui, bien sûr, on peut savoir s'il a été honnête. Hein. De toute façon, quand on fait de la généalogie, on va toujours trouver un noble, un prince, ou alors un pendu. Donc quelqu'un. Et ça, c'est les archives judiciaires aussi qui sont soumises à une réglementation, à la consultation. Mais tous les archives judiciaires de plus de 100 ans peuvent être consultées quand elles existent, hein, par n'importe qui.
Et alors, vous dites, on trouve toujours un noble ou un condamné dans sa généalogie. Ça, c'est plutôt La Réunion ou partout ?
Partout, parce que La Réunion, on va remonter à La Réunion, mais on n'a pas toujours, nos ancêtres n'ont pas toujours vécu à La Réunion. La Réunion n'est peuplée que depuis le XVIIe siècle, donc avant, nos ancêtres viennent de partout. Donc voilà, on peut trouver un prince, on peut trouver... Ouais.
Ça doit vous demander beaucoup, beaucoup d'heures de travail, tout ça, non ?
Donc c'est une passion, on compte pas quand c'est une passion, on compte pas le temps qu'on passe.
Et vous y passez combien de temps à peu près ? À chaque fois ?
Je dirais un petit peu tous les jours.
Un petit peu, ça fait quoi ? Ça fait au moins 3 heures, parce que si vous rentrez dans des recherches, etc., après, c'est au moins 3 heures.
Après, je m'impose un temps de travail. Je cherche, là, je suis maintenant en train je cherche un personnage, un ancêtre d'une époque de l'histoire, et puis je travaille sur lui. Je sais aujourd'hui, je vais essayer de trouver des renseignements sur lui, je procède comme ça. Et puis je fais aussi maintenant un peu aussi pour mes amis qui me demandent. Voilà,
D'ailleurs, est-ce qu'il existe, à part votre association, est-ce qu'il existe un organisme officiel sur l'île qui pratique la généalogie et qui accueille les passionnés comme vous ?
Pas ma connaissance. Hein. Comme c'est une passion, c'est quelque chose qui... Ce sont des associations. Je sais que parfois, dans certains cas, il y a des notaires qui font appel à des généalogistes pour essayer de retrouver des héritiers. Une personne qui est décédée, on ne sait pas s'il a des héritiers. Il fait appel à des généalogistes. Il y a aussi, bien sûr, des généalogistes professionnels à qui on peut s'adresser. Ils ne sont pas très nombreux à la région.
Il y en a sur l'île ?
Il y en a, mais je ne crois pas qu'ils sont très nombreux. Il y en a quelques-uns, oui.
Donc, vous avez, quand vous vous retrouvez, la plupart des généalogistes passionnés, vous vous retrouvez aux archives, en fait, à Saint-Denis ?
Aux archives, maintenant un peu moins, parce que, comme je vous dis, tous ceux qui se trouvent dans les archives de Saint-Denis se retrouvent sur Internet. Mais il y a des archives, effectivement, qui sont encore aux archives départementales et qui ne sont pas encore numérisées. Oui, donc...
Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène d'émulation si, par exemple, vous allez travailler aux archives départementales à Saint-Denis avec d'autres passionnés de généalogie plutôt que de rester chez vous derrière votre ordinateur ?
Ah oui, bien sûr, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on peut changer ce qu'on a trouvé, on peut discuter, on peut aussi travailler en commun, c'est-à-dire se fixer certains axes de travail. Ça permet de ne pas faire que deux généalogistes fassent la même chose, le même travail en doublon. Et ensuite, on compare nos résultats et c'est beaucoup plus efficace de travailler en groupe, comme un peu partout. Hein.
Pour les débutants, à qui s'adresser donc ? Aux associations ? Il n'y en a qu'une sur l'île, la vôtre, c'est
oui,
tout ?
Oui, il y a une association sur l'île, le Cercle Généalogique de Bourbon, et puis peut-être aussi qu'ils connaissent dans leur connaissance quelqu'un qui s'intéresse à la généalogie, leur poser la question.
Est-ce que la généalogie, la recherche généalogique à La Réunion a une particularité ?
Oui, effectivement, La Réunion, il y a une particularité parce que, comme vous savez tous, La Réunion, on vient de peuples, de régions différentes. La Réunion, il y a des créoles, des yabs, des anciens qui viennent d'Europe, mais il y a aussi, par exemple, les malbars qui viennent de l'Inde. Eux, ils sont arrivés à La Réunion, les malbars, autour des années 1850, pour la plupart, un petit peu avant, mais eux, leur généalogie s'arrête quand le premier est arrivé. Ça sera difficile de remonter avant 1850. 1850 parce qu'il faut aller en Inde et on n'a pas de, de renseignements sur leurs ancêtres. Ils sont arrivés avec un numéro de matricule et puis c'est tout ce qu'on a sur eux. C'est pareil aussi pour les, ceux qui sont d'origine chinoise. Oui, voilà, c'est un peu pareil aussi. C'est très difficile, à moins de repartir en Chine. Et ils n'ont pas le même état civil que la France. Ils n'ont pas toujours la même façon de procéder. Et aussi pour ce qu'on appelle, nous, à La Réunion, les Arabes, c'est un peu la même aussi le même.
Est-ce qu'il vous est arrivé de, d'aller jusqu'en Chine pour chercher
Non. J'ai fait des recherches pour une amie qui était d'origine chinoise, mais voilà, on est bloqué. Il y a cette barrière, ce mur-là qui est pratiquement infranchissable. On ne peut pas remonter avant 1800.
Radio Sud Plus. Radio Sud Plus. La sensation.
Mais est-ce qu'il y a possibilité quand même, je veux dire, de trouver quelque chose si par exemple on voulait aller plus loin et qu'on se déplaçait jusqu'en Chine, puisqu'on a parlé de la Chine?
Je pense que ça doit être possible, mais comme je vous dis, l'état civil tel qu'on le connaît en France, c'est assez particulier en France. En France, on peut, l'état civil remonte jusqu'au 14e siècle. C'est donc l'origine de l'état civil en France depuis 1500, les années 1500. Avant, c'était donc le clergé, hein, les curés, les paroisses qui étaient chargées de cette responsabilité. Donc baptême, mariage et puis sépulture. Ensuite, après la Révolution, c'est un peu, disons, l'État, hein, qui a pris ça, qui a pris les choses en main. Mais c'est pas dans beaucoup de pays où l'état civil remonte aussi loin.
Est-ce que dans le reste des pays d'Europe, c'est comme en France ?
Oui, c'est avec quelques particularités, c'est à peu près pareil, avec la difficulté qu'on a à consulter les archives dans une langue étrangère, il faut déjà maîtriser.
Et oui, forcément, il faut un traducteur si vous allez les consulter en Allemagne, par exemple.
Voilà, bien sûr. Concernant ma généalogie, donc on fait des découvertes, on fait beaucoup de découvertes intéressantes et parfois des découvertes qui sont émouvantes et qui font presque avoir l'arme à l'œil. Moi, je voudrais donc citer le cas de deux femmes, hein, et beaucoup de réunionnais, donc sont dans mon cas, ce sont nos grands-mères à nous, hein. Une femme d'origine malgache, Anne Mousse, hein, c'est elle est à peu près la grand-mère de, j'allais dire, de pratiquement 80% des réunionnais.
Anne Mousse. Hein, oui, effectivement, vous savez qui nous en a parlé, c'est Ennis Roquel.
Ah oui, ben, je connais.
Sur le peuplement de La Réunion, effectivement.
Et voilà, donc une pensée particulière pour elle aujourd'hui. Et une autre femme aussi, donc, qui est pour moi un personnage de roman, de film, c'est Françoise Châtelain. Donc c'est une femme qui, on ne sait pas trop, il y a une légende autour de son origine. Elle fait partie des filles de la Salpêtrière. Donc les filles de la Salpêtrière, c'était au XVIIe siècle, c'était des filles où... qui un peu de mauvaise vie, enfin qui on dirait un peu en difficulté, je dirais plutôt
des femmes en difficulté,
en difficulté, ou alors qui avaient perdu leurs parents aussi, des nobles un peu déchus qui se sont retrouvés à la Salpêtrière. Et donc à un moment, c'était au début du peuplement de la Réunion, il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et le roi à l'époque avait décidé que voilà.
Ça a changé, il paraît, aujourd'hui. C'est l'inverse. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes à La Réunion.
Je n'ai pas les statistiques, mais je vous fais confiance. Et donc le roi avait décidé d'envoyer des filles justement pour assurer le peuplement de l'île. Et donc cette femme-là, Françoise Châtelain, elle est on la met dans un bateau avec 16 autres femmes comme elle pour venir à La Réunion. Le voyage va durer 2 ans. Pour en bateau.
2 ans.
2 ans pour arriver à La Réunion. Elle fait tous les 3 navires, donc passe 2 cyclones en mer. Elle arrive elle part un peu du côté des côtes de l'Inde. Elle arrive à Madagascar d'abord. Elle se marie, donc là, à Madagascar, un peu de force. Donc son mari est tué dans un massacre, le massacre de Fort Dauphin à Madagascar. Elle fuit à La Réunion, elle arrive à La Réunion, se remarie avec un autre qui est aussi lui tué dans la révolte des esclaves à Saint-Leu. En tout, donc, elle aura donc 4 maris, 16 enfants. Et,
oh là là,
oui. Et donc aujourd'hui, donc moi, si je suis là, c'est si aussi beaucoup d'autres réunionnais comme moi qui sont là, c'est un peu grâce à elle. Et elle meurt en 1730, cette femme-là, dans son lit, donc après tout ce périple. Et moi, je fais appel à quelqu'un comme, je sais pas, un cinéaste ou quelque chose. Il y a eu des écrits sur elle, mais pas beaucoup, hein. On pourrait faire un très grand film ou un grand roman sur cette.
Oui, ce serait effectivement une merveilleuse idée. On pourrait soumettre cette idée à Bernadette Thomas, qui est une écrivaine reconnue à La Réunion et qui a récemment justement obtenu un prix en métropole, un prix littéraire, et qui a écrit un magnifique livre sur Jeanne Commerson. Voilà, donc ce serait vraiment la personne à contacter pour ça.
Ben, je vais le lire, je vais l'acheter, je vais le lire. Donc, et puis pour terminer, si vous le souhaitez, donc je vais parler juste rapidement des noms de famille de La Réunion et puis leur origine. Bon, il y a beaucoup de paillettes à La Réunion, il faut savoir...
Ah oui.
Voilà, il faut savoir que le premier paillette s'appelait Antoine, on l'appelait Di Laroche, Antoine Laroche, donc lui il vient de l'Isère, hein, toutes les paillettes descendent de cette personne-là qui vient de l'Isère.
Ou on doit dire paillet, certainement, paillet ou paillette. Pas paillette, c'est plus joli paillette quand même.
Waro, donc les Waro viennent du Pas-de-Calais. Les Damou en viennent de Pantin, à côté de Paris, le premier Damou qui est arrivé, puis qui a donné qui a donné tous les autres Damou.
De
Pantin, à côté de Paris.
Autour de Paris,
voilà, c'est ça. Et Rivière, par exemple, vient de la Charente, les Blars viennent de l'Orne, et Fontaine vient de Paris.
Et les Derveillé, comme vous ?
Derveillé vient de l'Est, Strasbourg, de la région de Strasbourg.
Ouais, et ça remonte à quand, ça ?
Le premier qui est arrivé, c'est autour des années 1760. Et là, effectivement, il y a une coupure. Je n'ai pas encore réussi à trouver quelques pistes, mais je n'ai pas encore réussi à remonter cette branche qui vient de Strasbourg. C'est une quête.
C'est une quête. Oui, c'est une quête. Eh bien, Martial Derveillé, on va finir et je vais vous poser la question traditionnelle. Est-ce que vous avez un message particulier à lancer aujourd'hui sur Radio Sud Plus ?
Oui, la généalogie nous permet de rester humble, hein, parce que si on se rend compte, s'il y a une seule de ces personnes qui n'était pas là il y a 3 siècles, ben nous on serait pas là aussi. Et on se rend compte aussi, c'est que au-delà de la couleur de notre peau, des différences, ben on descend beaucoup pour la Réunion du même ancêtre, hein, de Anne Mousse. J'ai toujours Anne Mousse, on descend tous d'elle. On a tous un descendant d'esclaves dans notre famille. Donc voilà, c'est cette valeur un peu d'humanité, d'humanisme que je voulais transmettre aujourd'hui.
Eh bien, c'est un beau message. Vous avez un numéro de téléphone à transmettre aux auditeurs ?
Donc, je peux vous donner, pour ceux qui s'intéressent, le numéro des archives départementales de La Réunion et qui est en relation avec le cercle généalogique de Brobon. Donc, c'est le 02 62 94 04 14. Donc, le cercle généalogique de Brobon a une permanence donc aux archives départementales de La Réunion. Et je vous donne le numéro, si ça vous intéresse. Le 02 62... 94 04 14.
Bon, je vais donc répéter le numéro de téléphone pour ceux que ça intéresse, pour avoir des informations, peut-être se lancer dans une nouvelle passion, la généalogie. Alors 02 62 94 04 14. Alors c'est la fin de notre émission. Merci Martial Derveillé d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à vous, merci Radio Sud Plus.